Bonjour à vous tous. Très heureux d'être parmi vous. Mon épouse se joint à moi pour vous saluer. Elle est restée dans le pays de Montbéliard puisque nous venons d'avoir notre sixième petit enfant il y a deux jours. Donc voilà, c'est bien. Nous avons, dans ces 20 ans de travail missionnaire, décidé à chaque naissance de nos petits-enfants de nous organiser pour rentrer, parce que ça faisait partie de la non-rupture. Hein, il y a l'exercice du ministère, mais il y a surtout la vie de famille. Et l'exemple, là, ce matin, je vous regardais, la fratrie avec votre mère. Et ce n'est pas donné à tout le monde de garder ce lien. Ce n'est pas donné à toutes les familles d'avoir cet héritage. Nous vivons dans un monde de séparation, de fracture. Nous vivons dans un monde de choc, d'idées, d'éloignement. Et l'effort à garder nos familles, il faut le dire, l'effort, hein, la volonté de garder nos familles, ça devrait faire partie de notre volonté dans la foi. Christ soit au milieu de notre vie, soit, mais en même temps que notre famille ne soit pas mise à contribution pour prétendre vivre plus avec Dieu. C'est important. Nous venons de parler, là, frère, tu viens de parler du décès de quelqu'un. Et nous sommes entourés de gens qui, ouais, mais nous sommes entourés de gens qui vont décéder, et nous sommes toujours dans ce cri de fin de vie, Seigneur, qu'ils puissent se convertir avant de partir. Alors, je voudrais dire à votre jeunesse, vous qui êtes jeunes, enfants ou enfants de chrétiens, n'attendez pas cette prière finale pour vivre une vraie conversion et une vraie vie convertie. Parce que les temps finaux, vous ne les connaissez absolument pas. Vous ne savez pas. Mais votre vie en permanence avec Dieu, ça, vous la maîtrisez. Donc, enfants de chrétiens, conjoints de chrétiens, vivez une vie pleine avec le Christ. N'attendez pas une fin que vous ne maîtrisez absolument pas. Merci. La Bible dit, quand on reçoit un prophète... on a une bénédiction de prophète. Eh bien, quand vous recevez un missionnaire, recevez aussi une bénédiction de missionnaire. C'est biblique et c'est vivant. Rapidement, je vais vous rappeler, remémorer un petit peu les choses de ma vie pour que vous puissiez peut-être vous déposer dans les images que je vais vous projeter. Nous allons fêter avec Isabelle, on a le même âge, nos 60 ans dans quelques mois. Et nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur environ depuis 40 ans. Nous sommes convertis dans les années 80, au XXe siècle, hein, où on avait encore le téléphone avec un cadran qui tournait et un fil qui reliait au secteur. Nous sommes donc de cette génération-là où nous avons appris à nous débrouiller, à vaincre la vie, non pas à coup de diplôme, mais de travail. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais nous avons été forgés dans cette génération où le travail était une valeur de liberté. Le travail est une valeur de liberté. Le travail est une valeur de transformer la vie qui est autour de vous. Et puis, c'était une génération post-68ard qui avait une influence très brûlée. Et ce moment-là a été pour nous le moment de la conversion. Et de la conversion à la conscientisation que vivre en Christ, ce n'était pas seulement de recevoir quelque chose, c'était aussi le moyen de le faire. Donc rapidement dans nos cœurs, nous avons eu l'envie, hein, de servir le Seigneur. Nous sommes formés pour cela. Et dans les années donc 96, 94, 95, 96, 98, 99, après des expériences de petits voyages découvertes dans le monde de la mission, pardon, nous sommes partis œuvrer à Madagascar, donc depuis 21 ans, avec des hauts, des bas, des vallées, des montagnes, des brouillards, des pluies, des soleils, des bien-être, des malheurs, des larmes, des maladies. Mais nous avons tenu le parcours que Dieu nous a présenté et nous avons œuvré avec le Seigneur. Je voudrais vous lire, avant les quelques images qui vont défiler et qui vont vous remettre un petit peu dans la conscience que la mission n'est pas un parent pauvre de l'Église. Toute Église est le fruit d'une mission, qu'elle soit biblique, par papier, par projection, par quelqu'un qui soit venu, par une transmission, par une parole entendue à travers la radio, l'image, une voix, une certitude. C'est quand même le fruit d'une œuvre de mission, d'un travail qui est projeté. Toutes les églises sont le fruit de quelque part d'une extension, d'un bras armé, d'une volonté de mission. Donc la mission ne devrait pas être le parent pauvre de l'Église, elle devrait tout le temps être le jaillissement de l'envie de gagner le monde. Ce sont des faits. Le Christ reviendra quand toutes les nations de la terre auront été investies du message de l'éternité. Donc c'est un défi considérable. Nous sommes enveloppés, entourés, saturés d'informations qui nous parlent que peut-être que si nous allons sur Mars, nous trouverions quelque chose de différent de notre vie ici-bas. Et nous sommes tout le temps sollicités à penser que c'est à l'extérieur que devraient se passer les choses. Et l'Église n'est pas forcément insensible à ça. Elle pourrait imaginer qu'il y aurait d'autres paramètres que ceux qui ont été proposés par le Seigneur, tout simplement d'aller dans les nations, annoncer l'Évangile. C'est un immense défi. Alors que ce soit une nation de cité, une nation de quartier, une nation outre-mer, outre-terre, une nation outre-culture, c'est globalement le même défi. Je voudrais vous lire un petit passage biblique qui est connu, maîtrisé, partagé, déjà à l'école des enfants pour leur apprentissage de la vie chrétienne. C'est le fameux passage où David est confronté à une situation où Israël est débordé, 1 Samuel 17. C'est donc ce fameux passage où on va découvrir le tempérament d'un jeune homme, David. Donc 1 Samuel 17, je fais une lecture rapide. Les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azeka, à Éphèse et Dammin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Donc on est dans une zone de conflit. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Donc un événement majeur, il s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gad, et il avait une taille de 6 coudées et d'un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il y avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer, celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ?» Donc c'est lui qui prend l'initiative du sens du combat. C'est une bataille ou une guerre d'Israël. « Je ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ?» Il pose des questions déjà pour saisir la conscience des gens. Il l'entraîne sur son terrain. « Choisissez un homme qui descende contre moi. » s'il peut me battre, qu'il me tue. Donc il impose ses conditions. Nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Donc c'est l'absolu. Le Philistin dit encore, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shmaa. David était le plus jeune, donc ça nous rappelle des enfants, une grande fratrie qui part à la guerre. Les Américains n'ont pas inventé des films en imaginant qu'il n'y avait que le soldat Ryan à sauver. Moi je viens d'une région, la Franche-Comté, où une famille qui s'appelle les Jardot, vous pouvez regarder sur internet, ont envoyé 10 de leurs enfants, la fratrie de 10 enfants, sont morts à la guerre. Donc vous voyez, on est entouré de mythes, nous sommes entourés de mythes, et nous pensons que nous ne devrions que consommer ce qui nous entoure en mythes. Ceci n'est pas un mythe. Cet homme a laissé 4 de ses enfants partir dans un seul conflit, au risque de perdre tout, à la fin de sa vie. Je suis âgé, du temps d'un monarque, et je laisse 4 de mes enfants partir sur une seule scène de combat. Donc, les Philistins s'avancèrent matin et soir et se présentant pendant 40 jours. Je vous assure que pendant 40 jours, vous avez un ennemi qui vous bombarde, il vous écrase. Donc les gens, les hommes sur ce camp, matin, midi et soir, ne parlaient que de ça. Ils étaient pétris, ils étaient figés, littéralement aligné. Personne, jour en jour, ne pouvait aller à l'encontre de cette masse qui s'avançait, qui projetait son désir d'écrasement, d'esclavage. Et donc, il y avait une limitation des choses. Pendant 40 jours, donc, ce jeune homme qui va arriver, lui, il n'est pas pétri de ça. Il n'est pas déjà écrasé de jour en jour, parce que forcément, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressort pendant 40 jours. Et donc là, ce jeune homme va avoir une mission intéressante. Isaïe dit à David, 17, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères et porte aussi ces 10 fromages. » Au chef de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge. C'est seulement ces 3 mots que je voudrais vous partager. Il prit sa charge. Et nous sommes tous quelque part des fils d'Isaïe. Nous sommes tous quelque part une fratrie d'un père et nous sommes tous quelque part frais à aller avec notre charge remplir une tâche que nous ignorons encore, c'est d'être vainqueur sur quelqu'un, quelque chose, un événement, une situation nouvelle. Nous sommes tous appelés à une charge. Alors ça peut faire rire peut-être certains de penser que la spiritualité, l'engagement dans les choses de Dieu pourrait passer par des pains et du fromage. Mais il faut bien que Dieu s'appuie sur quelque chose de chaque jour de la vie pour nous envoyer. Voilà, ce matin vous avez entendu une annonce de travaux dans l'église. C'est une charge, c'est un défi. C'est une constance. Là, David allait être sollicité à aller voir le plus grand des monarques, Saül, avec du pain et du fromage. Quel décalage! Pour se retrouver encore en décalage, à être revêtu d'une armure qui ne lui allait pas du tout, encore un décalage, et pour être encore un décalage, un enfant blondiné allait être méprisé par un géant écraseur, écrasant, destructeur, encore un décalage. Comme quoi, du pain et du fromage peut vraiment bouleverser toute une histoire qui nous dépasse. C'est il prit sa charge. Voyez, il n'a pas été, bien qu'il avait vécu quelque temps avec dans la monarchie de Saül, quelque temps, il n'a pas été prétentieux à dire, mais non, moi je suis doué à autre chose, j'ai déjà été dans la maison de Saül, je connais la monarchie, je peux me débrouiller avec... Non, non, il est resté dans ce qu'il avait reçu de son père, une charge qui était des étapes, que des étapes, pour arriver à cette finalité de se retrouver le libérateur de tout Israël. Et dans notre vie, c'est pareil, que l'on soit missionnaire ou missionné de votre famille, nous avons tous une charge à prendre. Quelle est la vôtre? Connaissez-vous votre charge? Alors, il n'est pas question de mutilation mentale ou d'obligation pseudo-spirituelle. C'est de connaître quelle est la charge que le Seigneur vous a présentée. Vous êtes investi de quelque chose qui vous permettra de garder l'objectif. C'est fragile du pain? C'est fragile du fromage. C'est pas une matière dure. Donc il y a un comportement à avoir. Voilà, rapidement. Quelle est votre charge qui vous stimule à aller d'étape en étape vers la vie que le Seigneur a pour vous? Merci de m'avoir écouté. Réfléchissez à cela. Et avec les images qui vont dérouler, je vais vous présenter rapidement un parcours que nous avons effectué avec mon épouse et nos enfants, qui aujourd'hui, vous l'avez entendu, sont devenus parents et qui nous ont donné 6 beaux petits-enfants. Mais pour vous montrer que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Nous aussi, on a commencé avec du pain et du fromage. Et nous aussi, on a eu nos Goliaths impitoyables que nous ignorions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, David ignore totalement ce qui se passe. Il ne sait pas que pendant 40 jours, il y a une insulte tous les matins. Et lui, il va arriver frais, bing, paf. Et il va recourir à des principes qu'il maîtrise. 5 pierres, pourquoi 5 pierres? Parce qu'il savait certainement avec l'expérience qu'au bout de 5 fois qu'il avait jeté un projectile, s'il ne l'avait pas, le gars ou la bête, c'était fait. Donc 5 pierres, il a choisi ce qu'il fallait. Donc vous voyez, nous aussi, nous avons eu nos pains, nos fromages, nos pierres, nos géants, nos victoires, nos défaites, nos pleurs, nos brisements, nos faux habillements. Mais on s'est toujours positionné, je pense, on s'est toujours positionné pour continuer la charge que le Seigneur nous avait proposé dès le départ. Merci David. Alors on va regarder et je vais les commenter avec vous. Voilà, tu peux faire dérouler. Donc nous sommes à Madagascar, 4e plus grande île du monde. Merci David, continue. Fais dérouler David. Voilà, nous vivons dans un pays pauvre, 4e pays pauvre du monde, vas-y, fais dérouler. Mais pays pauvre ne veut pas dire pauvre pays. Hein. Il y a énormément de richesses, mais dues à des corruptions, à l'hydre de la corruption, nous luttons contre un... Ce n'est pas un Goliath, ce sont des Goliaths. Vas-y, David. Donc, nous sommes dans le ministère avec mon épouse, qui s'occupe de ce qui est les relations avec les enfants. Elle est douée pour cela. Et avec les personnes âgées que nous préparons à la vie éternelle. Merci David, continue. Voilà, merci. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Nous sommes partis à Madagascar avec une première mission. Et nous avons œuvré pendant 10 ans à établir vraiment notre première mission. Ceci étant réalisé, il y a en 2009, nous avons pour des qui est le chemin de la souveraineté de Dieu, continué avec mon épouse en repartant à zéro. Et nous servions donc un programme alimentaire au plus faible et au plus fragile de la ville. Et nous avions comme local une porcherie. Le maire de la ville, ayant vu notre désarroi, nous a gentiment offert un terrain au centre de notre quartier. Et ce terrain, c'était le crassier, la poubelle. Littéralement, la poubelle du quartier, le terrain de poubelle. Et sur ce terrain, eh bien, nous avons commencé à faire des murs. Et je n'avais qu'un conteneur. Et j'ai commencé à faire un mur de soutènement. Tu peux continuer. Un mur de soutènement sur lequel nous avons commencé à bâtir un abri où vous voyez par exemple la distribution alimentaire que nous faisons tous les après-midi depuis presque 10 ans. Nous distribuons du lundi au vendredi, parfois le samedi, pour en 60 à 80 personnes, un programme alimentaire tous les jours depuis 10 ans. C'est une charge. Mais comme je vous le dis, Dieu nous a envoyé des vieilles personnes que nous préparons à la vie éternelle. Ces vieilles personnes sont passées du stade de, je pense que vous pouvez me comprendre, non pas de décéder, non pas de mourir, mais d'être abandonnées sur une natte, affamées et malades, sans espoir, dans le désespoir. Et ces gens que nous avons décidé d'aider, aujourd'hui décèdent dans la foi avec un ventre rempli. Vous allez me dire, mais c'est quoi comme armée? Ben, c'est une armée, c'est de gens qu'on envoie dans l'éternité en ayant la période de vie la plus fragile et la moins intéressante qui nous a été confiée. C'est les personnes âgées, seules, veuves, abandonnées. Et ces personnes-là sont notre Église. Alors, c'est notre charge. C'est notre charge. On continue ? Voilà, donc, ces personnes-là sont des vieilles, globalement de vieilles dames, qui parfois, puisque leurs filles qui ont eu des enfants sont décédées, des vieilles dames de 60, 70 ans se retrouvent avec leurs petits-enfants affamés. Et pour les nourrir, elles remettent leurs petits-enfants à leur propre sein. Comment ça s'explique? Je ne sais pas. Et moi, je leur demande, mais dis, comment ça se passe? Elle dit, ben, écoute, le lait revient. Parce que c'est le seul moyen de ne pas mourir. Alors vous voyez, on a les plus faibles âgés et les plus faibles tout jeunes. Donc on organise depuis des années un plateau nutritionnel. Donc il y a l'alimentaire l'après-midi et le matin il y a le nutritionnel. C'est une farine de maïs que l'on donne aux enfants qui leur permet ça permet de lutter contre toutes les carences. Et donc nous avons la joie de nourrir ces petits-enfants qui sont capables d'aller à l'école après, puisqu'ils ont quelque chose. Merci David, on continue. Voilà, donc c'est la distribution de... Merci. Et puis, de ce bâtiment, où dès le départ, je n'avais ni fonds, ni argent, ni budget, ni entreprise, ni rien. Mais dès le départ, j'ai dit, Seigneur, on va bâtir comme imaginant qu'il y a un étage, voire plus. Donc, dès le départ, on a bâti. Et puis, petit à petit, des gens, des sympathisants sont venus, nous ont aidés, j'ai reçu, mais je ne suis pas resté avec les mains dans les poches. J'allais à Tana, donc nous vivons à 17 km au nord de Tana, Nanarive, et il faut une heure pour y aller, parce qu'il n'y a qu'une route et 200 millions de voitures, dont la moitié ne marche pas. Donc c'est très difficile pour rouler. Et donc j'allais voir des gens, j'allais frapper aux portes, vraiment. Je leur disais, je leur exprimais ce que nous étions, et j'étais sympathique pour les gens, et les gens me donnaient de l'argent. Ouais, j'ai mendié. Oui, j'ai mendié. Oui, j'ai été chercher. Je ne suis pas allé comme ça. Oui, j'ai été chercher mes 5 pierres. Et je les ai mis dans mes poches. Et j'ai commencé à mettre des murs, à mettre des choses, à faire l'impossible. Oui, nous avons consacré notre vie. Oui, nous avons été malades. Oui, nous avons eu des tensions dans la famille. Oui, nous avons été au-delà de ce que nous aurions dû aller. Oui, nous n'avons rien lâché. C'est pourquoi nous pouvons regarder un patrimoine de travail avec Dieu qui est bien présent, qui est implanté. Et oui, il y a un temps aussi de grâce. Et oui, il y a un temps où on peut parler de choses qui sont difficiles, délicates et parfois embêtantes. Mais c'est la vie, la trame de gagner des gens. Ça ne se fait pas comme cela. Oui, nous avons baptisé des vieilles dames et oui, nous les avons enterrées. Mais on les a envoyées dans l'éternité. C'est ça la différence. Oui, nous avons travaillé. Et oui, nous avons fait des choses pour rien. Et oui, nous avons fait des choses étonnantes. Mais on n'a rien lâché. Oui, on continue, David. Donc, petit à petit, jusqu'à avoir des activités qui transcendent des gens. Alors, vous voyez, à côté de chez nous, il y a une usine. À côté de chez nous, à Madagascar, il y a une usine de zone franche qui fabrique des vêtements pour une grande marque de magasins de sport qui parle de 10, hein, qui a une enseigne de 10 en grec, donc à vous de comprendre. Et oui, on fabrique des vêtements, il y a beaucoup de chutes de tissus. Donc nous récupérons les tissus, les chutes, pour essayer de faire des choses. On essaye toujours. Et nous avons fait un atelier de patchwork. Et on a appris aux vieilles dames d'apprendre à coudre, d'être propres, au moins d'être propres, etc. Et elles ont commencé à faire des poupées. Les premières choses, c'était des poupées. On s'est dit, tiens, c'est bien, elles font des poupées pour leurs petits-enfants. Et en fait, elles disaient, non, c'est pas pour nos petits-enfants, c'est pour nous. On n'a jamais vécu ça, on n'a jamais eu d'enfance. Donc on a vécu des moments où les gens vivaient spirituellement, un moment de vie qu'ils n'ont jamais eu. Et on a vécu des moments comme ça, où on faisait des actions, on faisait des œuvres, où il y avait un transport à la fois du temps, de l'émotion, du cœur, de l'âme, où quelque part, c'était le royaume de Dieu, dans lequel nous étions. Donc les gens vivent des choses. On va dire, c'est du tissu, qu'est-ce que c'est l'évangile là-dedans? Mais les gens vivent des miracles. Les gens vivent des résurgences de vie qu'ils n'ont jamais eues. Faire des poupées. Vous allez dire, missionnaire, fais des poupées. Bah, je ne vois pas la honte de David d'avoir du fromage. Je ne vois pas la honte de David d'avoir du pain. Lui, le roi d'Israël à venir. Donc, comment Dieu vous met une charge. Et moi qui suis un homme de brousse, et vous allez le voir, je me suis retrouvé à transporter des ballots de tissu. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Mais est-ce que ma vie, c'est ça? Et puis, je n'avais pas une réponse de Dieu, comme s'il me regardait en me disant rien. Et j'avais compris qu'il fallait que je continue de le faire. Donc, ma femme s'est spécialisée dans ce domaine. Elle est devenue art-thérapeute en passant des diplômes. Et elle s'occupe d'ateliers de lutte contre les violences culturelles, domestiques, traditionnelles et familiale. Et là, on est rentré dans l'antre de l'enfer. Et là, on s'est aperçu que les maisons qui devaient être des lieux de paix et de tranquillité, enfin de valeur et de dignité, il y a des enfants qui sont dans la tristesse de ne pas avoir d'enfants, de parents, pardon. Il y a des enfants qui sont dans la tristesse de ne pas avoir eu de parents. Et il y a des enfants qui sont dans l'effroi d'avoir des parents. Et on s'aperçoit que les maisons sont des antres effrayants de l'enfer. Et les gens, dans leur propre maison, sont véritablement détruits. Mais détruits, déchirés dans leur âme, dans leur corps. Et donc, mon épouse a mis en place des ateliers de lutte contre les violences pour que les gens s'expriment, pour que les gens extirpent sur la chair de l'Église, à travers des pièces de théâtre, les souffrances dans lesquelles ils sont. Merci David. Donc c'est ce que ma femme fait. Bien, autre chose. Pourquoi faisons-nous de l'optique? Je vous ai comprendre pourquoi. D'un seul coup, on passe d'un endroit à un autre. Parce qu'on a été provoqué à regarder ce qui se passe. Les gens meurent. Ils meurent chez eux de désespoir, de souffrance, d'isolement social, et entre autres de la mauvaise vue. Parce que les gens, il n'y a pas de rue là-bas, il n'y a pas de rue en bitume, il n'y a pas de rue plane. Il n'y a que des trous, des bosses. Donc les gens ne voient pas. Ils se tordent une jambe, un pied, ils tombent, ils se cassent le col du fémur. Et globalement, quand vous avez le col du fémur cassé, vous êtes condamné. Vous devenez une bouche de trop. Et donc vous mourrez de désespoir. Vous mourrez sur votre natte, dans la case. Parce que vous ne pouvez plus marcher. Et donc, le Seigneur est venu par un frère qui est venu à Madagascar. Il m'a bousculé en disant, on va faire de l'optique. Je dis, mais moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'une paire de lunettes. C'est pour reprendre juste en humour ce qu'un porte-parole de notre pays a dit sur les masques. Je ne sais pas ce que c'est qu'une paire de lunettes. Et il m'a expliqué. Et tout à petit, voilà. Donc d'une paire de lunettes, comme un de vos frères vient de m'offrir, de récupération, on est passé à créer une école d'optique éphémère pendant 6 mois. On a fait venir des enseignants et des formateurs de France et ils ont formé 3 jeunes personnes malgaches pour en faire des opticiens lunetiers à Madagascar. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'offrir des montures pour une poignée d'euros, vraiment une poignée d'euros, des montures que nous avons récupérées de France et que nous recevons régulièrement. Et ce qui nous permet de lutter contre la malvue et surtout le fait, on leur dit aux gens, voyez, lisez la Bible. Vous avez le moyen maintenant de ne pas rester isolé dans une non-culture, mais de lire la culture de Dieu, la Bible. Donc vous voyez, de la lutte contre les us et coutumes familiales, on passe tout doucement à soutenir la lutte de la culture, enfin lutter contre la non-culture de Dieu. Vous voyez, c'est très étonnant, comme vous, en tant que missionnaire, vous pouvez vous retrouver embarqué dans un flux des choses comme ça, mais vous ne le savez pas. Au départ, vous ne savez pas. David ignorait tout de ce qui se passait dans la vallée des térébintes. Et vous, en tant que dans le service de Dieu, vous ignorez vers quoi Dieu vous emmène. Merci David. Et donc voilà, c'est ce que maintenant les dames arrivent à faire, de l'artisanat propre. Nous sommes passés de la saleté au propre, nous sommes passés de la pauvreté à un produit, nous sommes passés de la non-existence à la dignité. Les gens ont une valeur, et cette valeur, elle est transposée à travers ce qu'ils font. Merci David. On continue. Voilà, donc on a des gens qui ont des sourires, qui ont de la dignité et qui ressemblent à leur cœur renouvelé. Merci David. Là, c'est un autre endroit. Là, on quitte la ville, l'affluence semi-rurale dans laquelle on est, et là, on rentre dans le 11e siècle. Vous allez me dire, pourquoi je dis ça? Je suis en brousse, et donc les gens vivent comme au XIe siècle. Une charrette à bœufs, le bœuf, sur un affût de bois. Les roues sont coupées dans les tranches d'épaisseur des bois. Les axes sont uniquement des cales de bois avec la graisse et la graisse des bœufs récupérés. Les sangles, c'est le cuir de la peau des bœufs qui est séché, qu'on perce, etc. Et voilà, là, on est au 11e siècle. Et quand cette culture, ce cueilleur-chasseur arrive vers une influence d'un poteau de réseau téléphonique, il lève sa fesse et il sort son téléphone portable et il téléphone. Et là, il est au 21e siècle. Et là, il y a tout un décalage. C'est-à-dire que c'est comme des brutalités. Autant pour eux, mais autant pour nous. Parce que d'un seul coup, ils ont affaire à un monde qui n'est pas le leur. On passe d'une violence à une autre. Et donc, on est dans ce monde-là. Et pour atteindre la brousse, il faut des moyens. C'est un pays de monts, de collines, de fleuves, de rizières, de rivières. C'est un monde où, pour aller dans la brousse, et moi je l'ai fait à pied, il faut faire des centaines de kilomètres, je répète, au cas où vous avez, qu'est-ce qu'il dit, centaines de kilomètres à pied pour rejoindre un village d'un autre. Quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous savez le prix de chaque pas. Et quand vous êtes arrivé dans un autre village, vous êtes épuisé. Épuisé. Donc il faut d'autres moyens que la marche à pied. Continue. Prêchez l'évangile avec ce que vous pouvez, avec ce que vous avez. Donc j'ai un cube qui me démontre que j'ouvre, que je démultiplie. Je ne sais pas si vous connaissez cet instrument, mais qu'on ouvre et que c'est chaque facette est l'évangile, enfin l'histoire de Dieu à travers les hommes, la chute, la croix, la résurrection, etc. Donc ça, c'est mon outil de travail. Merci David. Vous voyez la brousse. C'est la brousse. Il n'y a rien. Pas un bout de fer, rien. Il n'y a pas de route, il n'y a qu'une trace. Et il faut que vous fassiez celle de Dieu. Merci. Merci David. Voilà. La brousse, c'est des souffrances insupportables. Les gens sont mutilés par les crocodiles, comme vous voyez. Les gens ne voient pas. Les gens n'entendent pas, ils ont des maladies du 19e siècle, des pathologies effroyables et des choses que je ne peux même pas vous nommer parce que ça ne serait pas utile de partir comme un spectacle de souffrance. Mais vous avez affaire à une souffrance insupportable, insupportable. Et cette souffrance, elle développe de l'empathie et ça vous pousse. Ça vous pousse à faire des gestes qui paraissent ramasser des cailloux dans une rivière pour gagner une victoire. Et donc vous cherchez, c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai mendié pour aller chercher des fonds, pour gagner des gens. Oui, vous faites des gestes qui sont désaxés par rapport à l'amplitude de ce que vous voyez. Alors nous sommes organisés pour aller en brousse, nous avons été à pied, nous avons été en charrette à zébu, nous avons été en bateau à voile, en boutre, emporté par une voile qui avait plus de trous que de surface, capable de recevoir le vent. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait et on s'est usé pour lutter contre la malédiction. Et on a gagné des gens. On a gagné des gens par la compassion. On a gagné les gens, bien qu'il y ait une distance terrible, terrible, entre leur mode de vie quotidien et nous, ce que nous prétendions apporter. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a toujours une prétention qui peut devenir maladroite. Et c'est pour ça que subir les échecs, ce n'est pas forcément être humilié ou ne pas avoir gagné. Vivre les échecs, c'est aussi comprendre que c'est immense comme défi. Immense. Gagner des gens en brousse. Continue David. Voilà, vous voyez la petite flèche sur la carte, en haut à droite. Pour y accéder par route et par mer, et par route, par mer et par piste, il me faut 10 jours pour faire une boucle de 1000 km. avant d'arriver dans ce village-là. Il y a plus de 30 000 villages qui n'ont jamais été investis de l'évangile à Madagascar. Village hameau. C'est-à-dire un groupe d'individus qui vit sans connaître le Seigneur Jésus. Sans le connaître, sans avoir entendu. Moi, j'ai été dans des villages où quand on parlait de Jésus, les gens disaient, mais c'est qui? C'est un grand chef? C'est qui? C'est un chef, Jésus? Et c'est un transport. Il fallait véritablement descendre de qui vous êtes. Ou quand vous rentrez dans un village, les gens, pour beaucoup, j'ai vécu cette situation, n'avaient jamais vu quelqu'un à peau blanche. C'était un choc. C'était difficile. Difficile pour eux, difficile pour moi. Il n'y a pas de spectacle là. Et donc, pour y accéder, il faut faire 1000 kilomètres. 10 jours. Qui peut faire ça? Moi, j'ai une équipe qui vient avec moi, mais on est parti pour un mois. On part un mois. Sans téléphone, sans rien, un mois. Et il faut vivre tout ce qu'on doit vivre. Et je l'ai fait. Et j'étais au bout de la vie plusieurs fois. J'étais gravement malade et le Seigneur a changé. Il a dit, ça suffit maintenant. Et il m'a donné des aides merveilleuses. Et on a reçu des budgets pour pouvoir prendre l'avion de Bruce et éventuellement l'hélicoptère de la mission suisse et les missions qui nous emmènent. De 10 jours, on est passé à 1h30 de vol. On continue. Voilà. Ça, c'est notre dispensaire où on a mis 12 ans à le construire en pleine brousse. On continue. Et ça, c'est ce qui nous motive tout le temps. Chaque fois qu'on est en brousse, c'est ça, ce verset-là. Il faut être armé de ça. Merci, David. On passe à autre chose. Ceci est une photo du bagne. Nous avons été sur l'île du bagne, à Madagascar. Et cette île a été consacrée littéralement à Satan. Ils ont fait un hôtel. C'est une île où il n'y a pas d'eau potable. Et les gens survivent là, avec une eau saumâtre. Terrible. Et quand nous y sommes allés, on a emmené des Bibles. Parce qu'en plus, il y a une tradition sur cette île. Vous n'avez pas le droit d'amener des livres. C'est interdit, c'est fade, c'est une malédiction. Donc on leur a dit, ben, c'est pas des livres qu'on vous apporte, ce sont des lettres. Il y a 66 lettres mises ensemble dans un cahier. Donc comme vous n'allez pas pouvoir lire 66, on va déjà vous en donner 27, c'est le Nouveau Testament. Et donc les gens disent, bah oui, après tout, oui, c'est bon, c'est pas interdit. Donc ils ont commencé à lire le Nouveau Testament en lettres, les lettres du Nouveau Testament. Merci David. Il y a eu des baptêmes. Et il y a eu des gens qui sont repentis. Tu peux passer à autre chose? Voilà, donc là, vous allez voir un petit reportage de quelques minutes. Il y a FR3 qui est venu à Madagascar. Ils ont fait un petit reportage sur nous. Ça dure 5 minutes. Donc vous allez voir l'évolution du travail. Vous avez vu la décharge, les premiers murs, etc., etc. Merci. Donc, on a des sympathisants qui viennent nous rejoindre. Le docteur Maximini, c'est quelqu'un qui aime faire quelque chose pour les autres. Mais ce n'est pas durable. Ce sont des aides temporaires. Mais on va chercher. On n'attend pas. On va chercher ce qu'on ne sait pas faire. Moi, je ne suis pas médecin stomatologue, hein, mais j'ai une charge. Et cette charge, bien qu'imparfaite, on va chercher les gens pour que ce que l'on fait ait du sens. Il y a des saisons, il y a des moments pour ça. Il y a surtout le fait de combattre quelque chose qui n'existe pas. Merci, on va finir avec les dernières images. Et David va vous les montrer. C'est la mission. seulement parce qu'il disait, c'est un lieu qui est propre, qui nous accueille, et c'est bon. C'est un lieu qui accueille les gens. Les plus pauvres, on a voulu faire le meilleur, pour que le fait de rentrer, rien que d'y accéder, il y a une visitation. Et souvent, on a vu les larmes de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est gagné. C'est plus fort qu'une leçon, qu'une tentative de dire aux gens, tu sais, il faudrait. C'est plus fort. Quand Dieu vous touche, c'est bien plus fort qu'une leçon. Donc les lieux comme ça, où il y a de la mission, comme votre église, croyez que parce que vous faites les choses bien, belles, une seule fois, croyez aussi que les gens qui viennent dans vos lieux, Dieu les attend et il y a une visitation de Dieu. Ça, c'est gagné. Après, vous êtes vous-même et vous suffit d'être... Les gens vous voient vivre, vous entendent, vous savent qui vous êtes. Et ils sont touchés par votre présence, votre fidélité. David, la suite et on va finir. Donc le travail de Bruce, c'est ça. Vous voyez, je vous le dis au départ, la mission, ce n'est pas que des réussites, que des stades remplis. Nous ne sommes pas dans cette névrose d'avoir peur d'un stade qui ne serait pas rempli de gens qui écouteraient l'évangile. Notre stade, c'est la Bruce. Notre public, c'est des cueilleurs-chasseurs, comme vous venez de voir, régulièrement, qui nous pillent, qui nous détruisent le travail, mais il faut persévérer. C'est facile de le dire en quelques secondes, persévérer, mais c'est des mois et des années de vie. Je vais conclure pour vous dire que c'est toujours le temps de la mission. Et une étape n'est pas l'histoire complète du travail de Bruce. Une entreprise, vous êtes dans une entreprise, elle fait faillite, toutes les entreprises ne s'arrêtent pas. Votre entreprise fait faillite, c'est pas que vous avez été mauvais ou que vous n'êtes pas bon, etc. C'est une situation donnée. Mais vous continuez, vous rebondissez, vous cherchez autre chose. Et dans la vie de mission, bah, c'est pareil. Il y a des moments où c'est terrifiant. Mais il faut savoir sur quel socle vous êtes. Qu'est-ce qui vous anime? Et dans votre vie chrétienne personnelle, vous, ici, là, à Persan, sur quel socle est votre âme? En qui croyez-vous? Qui est le fondement de votre spiritualité vivante et biblique? Est-ce que c'est des histoires? Est-ce que c'est une sympathie religieuse? Vous avez une vraie relation, une communion, une proximité avec le Seigneur Jésus? C'est ça qui fait la différence. Et quand vous êtes au bout du monde, là, hein, vous avez entendu les chiffres, il faut savoir avec qui vous êtes. Il faut savoir qui est à côté de vous. Il faut savoir qui vous accompagne. Il faut savoir le but suprême, le but final, c'est quoi? Les années passent. Vos 20 ans, vos 30 ans vont passer. Moi, le Seigneur m'a saisi, j'avais 22 ans. J'avais envie de tout casser, tout rock'n'roller. J'avais envie. Sauf que là, il m'a demandé de faire un choix. Ce choix, je l'ai fait. Et il s'est servi de cette tension pour m'emmener jusqu'au bout du monde. Et cette tension, elle est toujours là. Parce que c'est ça que Dieu a voulu que je convertisse. Quelle est ta tension? C'est quoi qui te met en nervure comme ça? On ne rentre pas sur le terrain, on ne rentre pas dans la vallée des ténèbres hein, pour perdre. On ne rentre pas sur un terrain pour perdre. On ne rentre pas dans une église pour être perdu. On n'amance pas l'évangile pour que ce soit de la peinture comme ça, exotique. Qu'est-ce qui te met en tension? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça. On n'est pas missionnaire par hasard ou par défaut. On n'est pas converti et sauvé parce qu'on était bousculé. C'est une volonté et un amour des choses de Dieu. Et ça, c'est en toute chose. Il y a tous les détails comptent. L'organisation de l'école, le patronage des enfants, le catéchisme, la musique, la prédication, les travaux, tout compte. Je peux le dire, parce que je suis dedans, tout le temps. Mais on installe le patrimoine de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur. Et on avance, et on côtoie. Et les gens viennent parce que, vous avez entendu le docteur, le dentiste qui n'est pas converti, mais il dit, on s'appuie sur les gens qui sont là. Sur qui vous appuyez-vous? Le Seigneur est de tout temps là. Si vous ne vous appuyez pas sur le Seigneur pour votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, vous vous appuyez sur qui? Sur quoi? Voulez-vous être éphémère ou voulez-vous rentrer dans ce qu'il est, lui, éternel? Votre christianisme, il est temporel. Je goûte une église, ça ne me plaît pas. Je prends autre chose. Ou vous êtes dans la fondation. Je peux en parler. Vous avez vu mes images. Donc ce n'est pas grossier ce que je vous dis. Ce n'est pas maladroit. Il y a un moment donné, il y a des choix à faire. Et ces choix sont importants. Quand j'étais parachutiste, il y avait pas, quand vous êtes devant la porte avant de sauter, il n'y a pas d'autre choix. Vous sautez. Il n'y a pas d'autre. Vous n'êtes pas là à reculer. Vous sautez. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a des choix à un moment donné. Il faut que ce soit de la fondation. Vous êtes fondé sur la personne, la merveilleuse personne qu'est le Sauveur, le Seigneur Jésus. Ça vous transporte. Alors la brousse, c'est un don, ce n'est pas un exotisme. Et je finis là-dessus. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en mission, je finis sur votre église. Et au fur et à mesure, les supporters d'église se sont étiolés. Loin des yeux. Ha, je peux vous le dire. Là, je peux vous le dire. Donc aujourd'hui, vous êtes la seule église qui nous soutenait. Ça ne veut pas dire que ce que vous nous donnez nous soutient. Je dis, vous êtes la seule église qui nous soutient. Tout le reste, je vous l'ai dit, je m'en dis. Je vais chercher des aides, des amis, des associations. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Alors, quand vous regardez votre église, vous rentrez, vous dites, c'est pas fini, c'est quoi, c'est qui? Vous êtes la seule église qui nous soutienne, mon épouse et moi. Quand je vous dis que quand vous accueillez un missionnaire, vous recevez une bénédiction de missionnaire, la Bible dit que quand vous accueillez un prophète, en tant que prophète, vous recevez une bénédiction de prophète. Donc, vous avez des fondements, vous avez des valeurs. Vous êtes à vos yeux peu, à vos yeux moins, à vos yeux il manque, à vos yeux... C'est possible! Mais vous avez déjà ça. Donc ça, il faut le garder. Enfin, je veux dire, il faut garder ce que vous avez. Il ne faut rien perdre. Vous n'êtes pas venu dans la vallée des térébins pour être vaincu. Demandez à David. Monsieur David, monsieur Isaïe David, est-ce que tu es descendu pour être vaincu? Il va vous le dire, non. Et le Seigneur vous demande à vous, ce matin, dans votre ambition générale, dans votre ambition personnelle, adolescent, préadulte, adulte, retraité, en couple, séparé, veuf, en tension, malade, en bonne santé. Est-ce que vous êtes descendu dans la vallée pour être vaincu? Alors, ce n'est pas du triomphalisme, mais c'est un état d'esprit de foi. C'est un état... Je conclue réellement, prenez votre charge. Et maintenant, nous allons prier. Et vous allez demander au Seigneur, c'est quoi ma charge, Seigneur? Là, dans mon église, là, dans ma maison, là dans mon adolescence, là dans ma jeunesse, là dans ma vie maintenant, c'est quoi mon pain et mon fromage de ma mission ? Seigneur, en toute humilité, parce que nous sommes les chercheurs d'âme, nous missionnaires, nous ecclésiastiques de la parole, nous sommes ceux qui vont chercher. Et on ne lâche pas. Ce matin, tu es là pour mettre des charges, Seigneur, dans les cœurs. Nous ne sommes pas de ceux qui peuvent te commander, Seigneur. Loin de... c'est pas ça, du tout. Mais nous sommes là, Seigneur, comme des pères dans l'Église, comme des Ésaïe, à donner à nos enfants, à nos fils David, une charge. Qui es-tu ce matin ? Es-tu un fils de l'Église ? Es-tu un frère de fratrie ? Es-tu le lien qui va faire que tes frères ont besoin de cette mission ? Ils sont pétrifiés, ils ne peuvent plus avoir la victoire. Qui es-tu ce matin ? Veux-tu une charge ? Prends-tu une charge ? Veux-tu être le fils d'une fratrie ? Le frère de frère ? Le fils d'un père ? Le vainqueur d'un ennemi, celui qui va débloquer une armée, celui qui va vivre selon le patrimoine de sa vie, déjà vécu avec Dieu. Merci pour chacun de nous, Seigneur, ce matin. Merci pour nos aïeux, merci pour les forces vives de l'Église, merci pour la jeunesse, merci pour l'enfance. Merci pour chacun de nous ce matin. Le Seigneur est le Sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Seigneur, tu continues cette œuvre dans les cœurs, que les gens rentrent chez eux en recherchant cette charge. Que ce soit un déclic. Que ce soit une volonté de porter ça. Dieu vous bénisse.